Chapitre 13. Jour 17. Un vieux bar crade. Une petite soirée toute simple, à la bonne franquette, avait dit Charlotte. Tu parles ? L'appartement était minuscule et bondé. Je me serais cru à la soirée de Noël des Gémonies, le genre de soirée dans laquelle j'ai toujours l'impression que chaque participant a jeûné pendant 3 mois. Alors moi, la bien élevée, au bout de 5 minutes, il ne me reste généralement plus que 3 toasts au jambon. Eh bien, chez Charlotte, il fallait sacrément avoir la rage pour espérer accéder au buffet et à une quelconque boisson. Charlotte m'a accueilli tout sourire, m'invitant à entrer, me remerciant pour les fleurs et me gratifiant d'un « Waouh, vous êtes très belle !» qui m'a fait plaisir. J'avais opté pour une tenue simple, mais efficace. Jean slim, chemisier blanc à tendance translucide, talons aiguilles rouge carmin. Je lui ai retourné le compliment. Charlotte était à tomber. Bien sûr, je la reconnaissais, mais son look du soir n'avait rien à voir avec l'uniforme blouse blanche croque maquillage léger dans lequel j'avais l'habitude de la voir. Juchée sur des sandales compensées qui rehaussaient ses jambes hâlées de 10 bons centimètres, elle virevoltait dans sa robe noire, honorant de son enthousiasme communicatif chacun de ses invités. Étant donné qu'il devait y avoir 50 personnes, j'avais calculé assez vite que mon quota de Charlotte au cours de la soirée serait très limité. J'étais là depuis près de 20 minutes et je n'avais toujours engagé de conversation avec personne. J'étais la plus vieille de tous les convives. Charlotte devait avoir 10 ans de moins que moi, je ne me l'étais pas énoncé aussi clairement à l'hôpital, mais maintenant que je l'observais dans son habitat naturel, c'était évident. Qu'est-ce que je foutais là, putain ? À mesure que les minutes défilaient, je me sentais de plus en plus décalée. J'étais différente de cette faune de jeunes célibataires, insouciants, rieurs, buveurs, fumeurs. Je les enviais pourtant. Je voulais leur ressembler, donner le change. Moi, d'ordinaire si à l'aise dans les conversations de comptoir ou de machine à café, j'avais perdu cette capacité à faire semblant de m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas, à réagir par des hochements de tête ou des « Ah, super !»« Oh, tant mieux !»« Mais dis-moi, c'est génial !» aux élucubrations d'une vague connaissance racontant ses vacances au Népal. Ces quelques semaines avaient anesthésié mes synapses de socialisation. Je ne m'en étais pas rendu compte, car je n'avais plus été confrontée à une telle situation depuis que j'avais claqué la porte d'hégémonie. Je m'apprêtais à repartir lorsque j'ai entendu un homme s'adresser à moi. « C'est incroyable, ces gosses seraient prêts à tout pour quelques grammes d'éthanol. Puis-je vous offrir quelque chose, mademoiselle ? Enfin, si je parviens à me glisser. » Il avait une voix chaude, éraillée, presque cassée, très masculine. Je me suis retournée, une réponse type qui coupe les élans des dragueurs qui parlent comme dans un bouquin, au bord des lèvres. « Non, merci. » Je me suis arrêtée net. Le mec était beau, charmant. Je ne m'y attendais pas. La quarantaine ou un peu plus, peu importe. En tout cas, bien plus âgé que la moyenne de cette soirée. Grand, un visage droit assez classique, une musculature que je devinais bien dessinée à travers son t-shirt gris fluide à manches longues. Une barbe fine et entretenue, des cheveux noirs bouclés mi-longs qu'il avait passés derrière ses oreilles mais dont on comprenait tout de suite qu'ils avaient tendance à se rebeller. Un latin sûrement, brut de fonderie et sophistiqué à la fois. Des yeux très sombres à la limite du noir. Une lueur presque rugueuse dans le regard, malgré son sourire. Car il me souriait, attendant ma réponse. Je restais immobile, probablement un air un peu béné accroché à mon visage, lorsqu'une fille, les bras chargés de bière, m'a percuté. Choc. Chute de bière sur le sol. Tentative désespérée de me raccrocher à un voisin. Échec, glissade, chute de bière sur mon chemisier blanc. Humiliation. La jeune femme se confondait en excuses tout en m'appelant constamment « madame ». Humiliation au carré. Mon bel inconnu avait dit « mademoiselle », c'était mon lot de consolation. Merde, mon chemisier. Il ne me manquait plus qu'un bon concours de t-shirts mouillés à la bière. J'ai dit à la fille que ce n'était pas grave. Vraiment, je vous assure. Et mon chevalier servant m'a tendu les mains et m'a aidé à me relever. J'ai été surprise par le contraste entre sa poigne ferme, énergique, en totale cohérence avec l'image un peu bourrue qu'il renvoyait, et la longueur inhabituelle de ses doigts. Les mains sont ce que je regarde en premier chez un homme. Après, les yeux et les fesses, bien sûr. Côté postérieur, je n'avais pas encore pu me faire une idée, mais les yeux et les mains tenaient leurs promesses. « Je suis désolée, c'est à cause de moi. si je ne vous avais pas distraite. Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Et puis j'adore l'odeur de la bière sur mon corps.
Putain, Thelma, c'est quoi cette blague pourrie? Tu n'as rien trouvé de mieux?
Cela tombe très bien. Moi aussi, j'adore l'odeur de la bière sur votre corps. Le mec avait de l'humour. Il était sur sa lancée. Reprenons là où nous en étions, voulez-vous? Permettez-moi maintenant de vous offrir ce verre que je vous ai promis.
D'où sortait ce mec qui ressemblait à un héros de film d'action et qui parlait comme un acteur intello?
Impossible de rester de marbre, en tout cas. Je dois bien l'avouer, j'ai ressenti pour cet inconnu une attraction immédiate, presque animale, inexplicable, déconcertante.
Putain de phéromone.
J'allais accepter le verre, mais j'ai stoppé mon mouvement.
J'ai pensé à Louis. Cela faisait 20 minutes que je n'avais pas pensé à Louis. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? D'oublier mon fils? De quel droit étais-je en train de parader les seins imbibés d'alcool devant un bellâtre? Un gouffre béant de culpabilité s'est ouvert et s'est mis à m'aspirer, me punissant d'être capable de pensées lubriques alors même que mon fils était dans le coma. Une odeur de vieux bar crade commençait à se dégager de mon chemisier. Je me suis trouvé pathétique. Je devais partir, sur le champ.
Non merci, vraiment. Il faut que j'y aille. De toute façon, je ne suis plus présentable.
Je vous assure que vous êtes bien plus que présentable. J'y tiens.
Laissez-moi vous offrir ce verre. Ensuite, vous partirez.
Désolé.
Bonne soirée.
J'ai attrapé mon manteau et suis sortie, sans même un au revoir pour Charlotte, qui discutait sur son balcon avec un jeune homme en enchaînant clope sur clope. Elle avait loupé le jet de bière intempestif. Tant mieux, au moins j'aurais conservé un semblant de dignité à ses yeux.
Quelle conne j'avais été d'accepter. Je n'étais pas prête. J'aurais dû m'en rendre compte avant d'y aller. Mais j'avais tellement eu envie de croire que ma vie pouvait redevenir normale, que je pouvais redevenir normale. Je m'étais trompée. J'étais à 5 minutes seulement de chez moi, mais j'avais besoin de marcher. Longtemps. Je ne pouvais pas rentrer si tôt à la maison, maman m'aurait assaillie de questions. À l'idée que j'allais sortir, elle avait montré encore plus d'excitation que moi. Elle m'avait fait couler un bain et m'avait donné du « mon petit chaton chaud » à toutes les sauces, tout en me rappelant à quel point j'étais magnifique, à quel point j'avais le droit de continuer à vivre, à quel point j'avais le droit d'être heureuse. Je m'étais presque laissée convaincre. Mais j'avais pris conscience un peu tard que mon unique priorité, mon amour, mon fardeau, ma douleur, ma joie, mon espoir, ma vie, restait Louis. Seule dans la rue, j'ai déambulé le long de ce canal Saint-Martin que mon fils aimait tant. Des larmes ont envahi mes yeux lorsque je me suis aperçue que je pensais parfois à lui au passé. Je les ai retenus, là, juste au bord. Ce canal Saint-Martin que mon fils aime tant. Louis n'est pas mort, Thelma. Louis va vivre. Il faisait bon pour un début de mois de février. J'ai gardé mon manteau ouvert afin de sécher mon chemisier, ce qui m'a conféré une odeur des plus désagréables. J'étais passée du vieux bar crade à la boîte de nuit vers 4 heures du matin. J'ai repensé à mon gentilhomme du soir. Je n'avais finalement rien su de lui. Mais l'empreinte de ses mains était encore palpable sur les miennes. Je me suis mordu la lèvre inférieure, me punissant de ses pensées déplacées. Je me suis assise sur un banc, scrutant la surface du canal Saint-Martin, me demandant ce que cela pouvait bien faire comme impression de mourir par noyade. Était-ce douloureux? Était-ce lent? Était-ce supportable? Mourir semblait si facile, au fond. Pourquoi ressent-on au plus profond de soi le besoin de vivre coûte que coûte? Pourquoi ce putain d'instinct, cette injonction à ne pas lâcher, est-elle si présente? Il aurait été plus simple de lâcher. J'aurais pu me pencher si fort que j'en aurais basculé. Je me serais enfoncé dans l'eau de ce canal boueux. Personne ne m'aurait vu si je m'y étais prise correctement. Mais je ne lâcherai pas. Je le savais. J'étais au purgatoire, condamnée à vivre. Je me suis mise à aspirer l'air de la nuit avec une gourmandise désespérée, comme des bouffées d'oxygène comprimées dans une bouteille de chambre d'hôpital.